Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il y a 60 ans, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo accédait à son indépendance après avoir été une propriété privée du roi des Belges, puis une colonie belge. Toute la journée, RFI vous fait revivre cet événement historique avec évidemment des témoignages, des archives sonores et de nombreux invités. 60 ans d'indépendance, l'occasion pour nous de retracer ces 6 décennies d'histoire. De Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba à Félix Tshisekedi, en passant par Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila et son fils Joseph Kabila. Comment le pays a-t-il géré son indépendance? Quelles sont les réussites, les échecs? Quels défis reste-t-il encore à relever? On a envie de vous entendre. RFI vous donne la parole. Vous nous appelez. Vous êtes déjà très nombreux à souhaiter prendre la parole durant cette émission spéciale. 33 9 693 693 70. Je vous attends également sur nos réseaux sociaux et notamment la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Pour dresser ce bilan et dialoguer avec vous, deux invités. Bob Kabamba, bonjour.
Bonjour.
Politologue, professeur à l'Université de Liège et cofondateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. À mes côtés en studio, Jean-Jacques Lumumba. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez.
Ancien banquier devenu lanceur d'alerte, cofondateur d'UNIS, le réseau panafricain de lutte contre la corruption. Vous portez le même nom que le père de l'indépendance, le tout premier premier ministre du Congo indépendant, dont vous êtes descendant puisque vous êtes le petit neveu de Patrice Emery Lumumba. Avant de passer au standard, de dialoguer avec les auditeurs, j'aimerais qu'on s'arrête tout de même sur ce 30 juin 1960. 3 discours sont prononcés au Palais de la Nation à Kinshasa lors de la cérémonie de proclamation de l'indépendance. D'abord le discours du roi des Belges, Baudouin Ier, un discours vantant les mérites, les bienfaits de la colonisation au Congo. Le discours ensuite du président du Congo, Joseph Kasavubu, qui ne contredit pas le roi Baudouin, et celui de Patrice Lumumba, Bob Kabamba. Ce discours de Patrice Lumumba est un discours qui deviendra historique.
Oui, ce sera un discours historique qui va marquer donc la mémoire collective de tous les Congolais, pas que les Congolais, mais aussi de tous les peuples africains qui seront en train de vivre plus ou moins des indépendances violentes et vont s'identifier dans ce discours de Patrice Emery Lumumba. Et donc c'est un tournant important pour l'histoire du Congo, mais aussi pour l'histoire de l'Afrique.
Et ce sera un discours virulent contre la colonisation belge, Jean-Jacques Lumumba. Que retenez-vous de ce discours prononcé par votre grand-oncle?
La chose la plus importante que je retiens de ce discours, c'est que aucune lutte ne s'obtient facilement. C'est par beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation qu'on peut arriver à changer les choses et à transformer les choses et surtout à arracher sa liberté.
Ouais, nous avons connu les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre tête de l'esprit colonialiste, nous vous disons tout cela est désormais fini. Vous avez, j'imagine, tous les deux suivi ce matin les regrets du roi des Belges. Il a écrit au président Tshisekedi à l'occasion de cet anniversaire de ses 60 ans d'indépendance. Il exprime dans cette lettre ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale belge. Ces regrets sont suffisants, Bob Kabamba?
Les regrets ne sont pas suffisants, mais c'est déjà un premier pas. Ce qu'il faut bien se rendre compte dans cette lettre, il y a 2 choses importantes qui ressortent. La première, c'est que d'abord de reconnaître les méfaits de l'État indépendant du Congo qui était dirigé par son arrière-grand-père, Léopold II. Et ça veut dire qu'il y a une certaine continuité au niveau de la famille royale dans l'héritage qu'ils ont reçu de Léopold II. Il y a cette reconnaissance d'abord de ces faits. Ensuite, il souligne la deuxième chose qui est la colonie belge, qui est la continuité donc des méfaits qui ont été commis par son arrière-grand-père. Et donc, c'est donc ces 2 éléments qui rattachent et qui prouvent bien qu'il y a un momentum en Belgique qui permet de pouvoir enfin revenir sur cette période qui est douloureuse pour le Congolais et que dont les Congolais attendent toujours d'avoir des explications, mais aussi à une discussion avec les Belges pour un peu gommer ce passé et construire d'autres relations.
Jean-Jacques Lumumba, les Congolais peuvent se contenter de ces regrets ?
Je pense que nous devons aller beaucoup plus loin en rétablissant la vraie histoire de par rapport à tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce discours mérite de se transformer en des enseignements et dans l'éducation belge pour que les Belges qui ne connaissent pas forcément ce qui s'est passé lors de la colonisation puissent apprendre à l'école ce qui s'est passé et qu'ils vont comprendre la douloureuse histoire et l'origine de l'immigration aujourd'hui. Et donc on mérite d'aller au-delà de ce discours et s'y est d'avoir et d'engager un discours un dialogue franc et surtout des gestes forts qui pourront nous permettre ensemble de construire une histoire beaucoup plus apaisée.
Ouais, nombreux sont les auditeurs qui rendent hommage ce matin à Patrice Emery Lumumba. Caleb, bonjour.
Bonjour Juan, excellente fête d'indépendance à tous les Congolais.
Et évidemment, on vous souhaite à vous tous une belle fête d'indépendance. Caleb, vous souhaitiez revenir, vous, essentiellement sur l'assassinat de Lumumba.
Oui, effectivement, l'assassinat de Lumumba, cette grande figure de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui avait un grand rêve pour le Congo, mais un rêve qu'il ne pourra jamais matérialiser, simplement puisqu'il a été brutalement et prématurément écarté, supprimé par les ennemis du Congo. Les ennemis du Congo, je vois, les Occidentaux. C'est bien aujourd'hui que le roi belge adresse des excuses au peuple congolais pour des blessures nous infligées, mais il devrait aussi présenter des excuses pour le rôle que sa Belgique a joué dans l'arrestation, le transfert de Lumumba chez son ennemi du Katanga, Moïse Tshombe, jusqu'à son assassinat. Mmh. C'est déplorable de perdre une... Oui, Juan, oui, c'est déplorable de perdre des personnes comme Lumumba, puisque, à mon avis, cet assassinat a empêché aujourd'hui le Congolais de décoller comme il devrait décoller. Mmh. Et là, la Belgique, les États-Unis, dans tout le bloc occidental, puisque nous étions en pleine guerre froide, tout ce bloc a des excuses à présenter au peuple congolais.
Oui, parce qu'il faut resituer l'assassinat de Lumumba dans son époque. Lumumba était jugé proche de Moscou, pro-soviétique. Était-il communiste ? Je ne sais pas si nos invités ont la réponse. En tout cas, Caleb, vous attendez aujourd'hui des excuses de la part de la Belgique, des États-Unis, des Occidentaux. Jean-Jacques Lumumba, la mort de votre grand-oncle reste encore un grand mystère.
Effectivement, il faut le souligner, aujourd'hui, c'est plus un secret, ce sont les États-Unis, la Belgique, qui ont contribué à l'assassinat de Lumumba. Et je pense que je donne raison à Caleb quand il dit que le roi doit aller plus loin et demander des excuses, parce que ils ont planifié cet assassinat, ils ont eu des mains dans le pays, ils ont utilisé Mobutu et tous les autres politiciens de l'époque pour accomplir cet ignoble assassinat. Et donc je crois que 60 ans après, il est grand temps que la Belgique reconnaisse qu'elle a assassiné une personnalité politique congolaise.
Patrice Lumumba assassiné 6 mois et demi après l'indépendance. Bob Kabamba, sur les propos de Caleb, notre auditeur, vous en pensez quoi ?
Oui, une première chose, Juan, c'est que Lumumba n'était pas communiste. Lumumba a été obligé de pouvoir faire appel au bloc communiste lorsque du côté occidental, on l'a lâché. Il savait très bien qu'il était incapable de pouvoir assumer la gestion de l'État congolais sans l'apport de la Belgique. Or, le moment où la Belgique décide de lâcher le Congo, elle fait évacuer tout le personnel politique, administratif, militaire belge. Et donc, on se retrouve avec un pays qui n'a pas de cadre, qui n'a pas de structure pour pouvoir arriver à assumer une gestion efficace d'un État. Et de ce fait, se retrouvant devant ce fait-là, il fait appel au bloc soviétique pour lui venir en aide. Et beaucoup de pays africains vont effectivement lui venir en aide et ils vont envoyer des techniciens, dont par exemple des Haïtiens, des Ghanéens, qui vont être envoyés pour pouvoir aider Lumumba à pouvoir gérer. C'est à partir de ce moment-là que l'on va commencer à qualifier que Lumumba était communiste, alors que ce n'était qu'un fait politique pour essayer de faire face à une problématique qui lui était insurmontable. Alors, sur la mort de Lumumba, il faut souligner que maintenant, on commence à avoir des preuves que quand même, il y a une implication directe de la Belgique dans cet assassinat, puisqu'il n'y a pas longtemps, on a découvert dans les archives de Van de Waal. Van de Waal, c'était le chef des renseignements en Belgique. Dans une note qui est dressée par un conseiller du Premier ministre Esquins le 12 juillet 1960, et dans cette note, on évoque clairement l'élimination définitive de Patrice Lumumba.
Oui, il est écrit, le ministre écrit, le ministre écrivait, l'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo et du Katanga et de la Belgique est l'élimination définitive de Lumumba.
Oui, effectivement, le 12 juillet. Alors, lorsqu'on regarde les faits qui se passent après le 12 juillet, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une mise en œuvre de cette recommandation qu'il y a dans cette lettre. Et donc, là, manifestement, pour l'instant, on commence à avoir cette preuve de l'implication directe de la Belgique dans l'assassinat de Lumumba. Il faut aussi souligner qu'il y a eu une commission d'enquête du Parlement belge qui a conclu plutôt à la responsabilité morale. Alors, responsabilité morale veut dire simplement que oui, nous connaissons avoir joué un rôle, pas nécessairement avoir assumé jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça qu'on a ajouté responsabilité morale.
Effectivement.
Si on n'ajoutait pas la responsabilité morale, alors là, ça va vouloir dire qu'il va y avoir des réparations qui doivent être demandées par la famille Lumumba à la Belgique. Parce que là, maintenant, nous avons l'implication directe du gouvernement belge dans cet assassinat.
Et la commission d'enquête du Parlement belge date de 2001, pour être tout à fait précis. Allez, continuons à retracer ensemble les 60 ans de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Bonjour Charles.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à tous les autodérés ici.
Nous vous écoutons avec Bob Kabamba et Jean-Jacques Lumumba.
Moi je pense que ce qui a été dit effectivement, c'est vraiment ce que le Congo attend. Les regrets, oui, de la Belgique, c'est vrai. Mais moi je voudrais par contre revenir un peu sur le parcours. Parce que pour moi, tout est parti aussi avec Mobutu qui arrive au pouvoir, tout le monde le sait en 65. Et puis en 71, c'est le début du déclin avec comment quand il a commencé à étatiser toutes les entreprises publiques. Parce qu'il faut remarquer, il faut noter une chose, en 1960, quand les Belges devaient partir, et donc notre économie était forte, elle était d'ailleurs diversifiée. Et voilà. Mais lorsque Mobutu décide d'étatiser les entreprises qu'il a trouvées, et c'était le début du déclin, et ça nous a pratiquement amené à la situation où on se trouve actuellement. Vous pouvez.
Donc, pour vous, Charles, Mobutu est responsable du déclin économique, voire même politique de votre pays.
Exactement. Quand vous retracez l'histoire, vous vous rendez tout de suite compte que Mobutu n'a pas su vraiment jeter les jalons pour pouvoir bâtir une économie forte comme c'était effectivement en 1960. Notre économie était plus forte que celle de la Chine, celle de l'Afrique du Sud. Alors, en 1971, quand il a étatisé...
Il a nationalisé l'économie. Les entreprises, et notamment les entreprises minières qui exploitent les immenses richesses du pays. Jean-Jacques Lumumba, vous êtes d'accord, Mobutu est le responsable du déclin de votre pays?
Je le situerai comme l'un des responsables du déclin du pays. Et par rapport à cela, je vais très clairement condamner la classe politique dans son ensemble. Mobutu, Kabila et tous les autres, et aussi une partie des Occidentaux qui ont contribué très clairement à détruire le tissu économique de ce pays. Nous l'avons vu à travers la kleptocratie qui s'est hissée à l'époque de Mobutu et qui a continué.
Mobutu, ce que vous gardez de lui, c'est ce pilleur. Il a pillé le pays, il a utilisé la RDC comme sa propriété personnelle.
Effectivement, il a pillé, il a tué, il faut le dire, ça n'a pas été un très bon dirigeant et il porte en lui les germes de cette hécatombe économique que connaît la RDC aujourd'hui, mais pas totalement, en partie. Et ceux qui sont venus après lui n'ont pas arrangé les choses, malheureusement.
Oui, bilan donc négatif pour vous, Jean-Jacques Lumumba, concernant la période Mobutu. Rappelons qu'il est resté trois décennies au pouvoir. Bob Kabamba, sans vouloir vous transformer en avocat de Mobutu, ceux qui disent, mais Mobutu, c'était aussi un rassembleur, un pacificateur. Qu'en pensez-vous?
Oui, Juan, ce qu'il faut savoir, lorsque Mobutu arrive au pouvoir, il a très bien compris que pour pouvoir diriger le Congo, il faut arriver à contrôler ce qu'on appelait les trois piliers que le colonisateur belge avait mis au Congo pour pouvoir contrôler ce grand pays. Et ces trois piliers, c'était l'économie, c'était l'État, ça veut dire l'armée et l'administration, mais aussi l'Église. Alors, lorsqu'il arrive au pouvoir, il va tout faire pour essayer d'arriver à contrôler ces trois piliers. Et il va facilement y arriver d'abord par l'armée, Ensuite, il va s'attaquer à l'économie en justement essayant de nationaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les secteurs économiques, et enfin à s'attaquer aussi à l'Église. L'Église, on est dans les années 70, au moment où il lance ce qu'on appelle le recours à l'authenticité, et où il essaye justement de briser le dernier pilier qui lui est sapé. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on voit bien que lorsque Mobutu arrive à avoir la main mise sur ces trois piliers, qu'il essaye maintenant, au lieu de le mettre au service du Congo, malheureusement, il le met à son propre service et au service d'un groupe. Alors, le seul bénéfice que l'on peut essayer de montrer de positif de Mobutu, c'est d'une part d'avoir consolidé ce qui avait déjà été fait par Léopold II et puis par là le Congo belge, et lui va le consolider et en essayant justement d'accentuer les sentiments d'appartenance à un territoire et construire une nation congolaise. Oui. Ça, effectivement, il va y contribuer, il va renforcer ça.
Et c'est vrai que les Aïrois, à l'époque, avaient la conviction de vivre dans un grand pays. Mobutu s'imposait dans les sommets internationaux. L'armée congolaise, rappelons-le, avait quand même des mirages, des avions de chasse. Il a su, selon certains, cimenter le sentiment national. Léonard, souhaite vous interpeller tous les deux, Bob Kabamba et Jean-Jacques Lubumba, sur un point très précis de la présidence Mobutu, la fin du parti unique. Et oui, c'était sous Mobutu. Bonjour Léonard.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Nous vous écoutons.
Oui, je voudrais aborder ce point parce qu'il est important, c'est l'avènement du multipartisme. Exactement, en avril 1990, après à peu près 25 ans de règne sans partage, le président Mobutu consacrait lors d'un discours les multipartismes avec larmes aux yeux. Mais je voudrais relever que pratiquement 30 ans après, en 2020 aujourd'hui, on a assisté à une explosion exponentielle du nombre des partis politiques. Mmh. Ici, chez nous, au Congo, mais qui, pour la plupart, n'ont pas de contenu. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui fait que la plupart de ces partis n'ont pas d'idéologie claire. Et parfois, ce sont des partis politiques qui s'associent sans avoir une idéologie. Vous voyez, il y a des unitaristes qui s'associent avec des fédéralistes et finalement, il y a des alliances contre nature. Oui. Parce que justement, appartenir à un parti politique, aujourd'hui, c'est accéder à une certaine classe bourgeoise. Alors que, normalement, les rôles d'un parti politique, c'est un rôle patriotique, des sensibilisations au patriotisme, à l'éducation civique et électorale.
Et on voit bien que le pays célèbre ses 60 ans d'indépendance dans une ambiance politique particulièrement délétère. On a deux petites minutes avant de rendre l'antenne, mais on reviendra tout de suite après, évidemment. Bob Kabamba sur l'avènement du multipartisme au Congo.
Oui, malheureusement, ça c'est la conséquence, on va dire, un peu de la représentation ethnique au Congo. C'est-à-dire que la plupart des ethnies sont regroupées sur un territoire et on donne un nom à ces territoires par rapport à l'ethnie. Alors, lorsqu'arrivent les élections, malheureusement, on n'élit pas un député national ou un député provincial qui va représenter la nation congolaise ou bien la province congolaise, mais pourtant, on élit un représentant d'une tribu au Parlement. Et donc, ainsi donc, la vie politique au Congo ne tourne pas autour d'un parti politique et à une idéologie avec un ancrage clair, mais tourne autour d'une personne qui représente une tribu. Alors, cette personne, lorsqu'elle n'est plus là, elle sera remplacée par une autre personne qui va créer aussi son propre parti politique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Alors, lorsque vous regardez maintenant le nombre de partis, ce n'est pas quelques centaines, Juan, on est maintenant à plus de 700 partis politiques.
700 partis politiques. Et Jean-Jacques Lubumba. Alors, attendez, Jean-Jacques Lubumba, 700 partis politiques, c'est digne d'une démocratie?
Ben, je crois que on pourrait avoir 700 partis politiques si réellement ces partis travaillent pour l'intérêt et pour l'émergence d'un État solide. Mais malheureusement, comme vient de le dire Bob Kabamba, ce sont des partis qui représentent des ethnies et des tribus, et donc on n'a pas des partis à l'échelle nationale, mais plutôt à l'échelle des clans et des ethnies ou des tribus.
On continue à retracer ensemble ces 60 ans d'indépendance congolaise. Juste après le journal, on marque une pause. Vous continuez à nous appeler. Il y a beaucoup, beaucoup de monde au standard. Évidemment, quelques privilégiés pourront prendre l'antenne dans un instant. 33 9 693 693 70.